blanche.
Airport,
yes.
The Motors,
yes.
Pour nous parler d'Evelyne Platnik-Cohen et de sa session de Booster Academy. Ça va être plus difficile de parler en rythme, là, ça commence à s'accélérer.
Et là, ça donne juste envie de danser.
On danse en studio, là, pour...
Elle m'a dit, je refuse de faire ce podcast, sauf si tu ouvres l'épisode... Avec cette musique.
Tout à fait.
Donc Evelyne, on va avec mon compère Renaud, que je salue une fois de plus officiellement dans cet épisode.
Bien le bonjour Thomas.
T'interroger sur la session de Booster Academy que t'as lancée en...
Oh, là, tu commences à me poser des questions.
C'est pas sympa. C'est...
Question piège tout de suite.
2004.
Et vendu en...
L'année dernière, donc en 2021.
Eh ben, on y va. Donc, écoute, on lance officiellement... l'aventure de la session Booster Academy avec le grand jour.
Le jour J, le jour de la session.
La signature.
T'appelles la session, la jour session, où tout le monde se retrouve...
La signature autour de la table, la vraie signature.
Ouais,
sauf
ouais.
Si tu as fait ça électroniquement, mais voilà, la signature.
J'aurais bien
du
aimé faire ça électroniquement. Non, je plaisante, mais c'est beaucoup de papier à signer.
Donc vraiment le cérémonial où ça y est, on signe enfin.
Oui.
Alors là, pour ça, tu as choisi une musique et je crois qu'on part en mode tango. Et tu as choisi... C'est un jeu à la fois à deux, évidemment, de séduction, de petits échappements aussi.
Voilà, exactement, ouais. Exactement.
Là, on parle bien du jour du signing.
Oui, tout à fait. Ouais, ça correspond bien. Moi, j'aime bien parce que c'est un vrai jeu à deux et il n'y a pas un gagnant et un perdant, en fait. Il y a deux personnes qui dansent ensemble. Et qui doivent normalement faire des choses sympathiques ensemble, donc qui ont en tout cas décidé d'une grande aventure.
Et on aime bien démarrer dès le matin, dès le réveil, et les émotions qui sont denses ce jour-là.
Oui, mais pas tant que ça en fait. Et d'ailleurs, ce jour-là, il va se passer quelque chose d'assez important pour moi, mais qui n'a aucun rapport avec la session de Booster Academy. Donc, en fin de compte, c'est la suite de tout. Alors, j'ai entendu, moi, j'écoute beaucoup ton émission, donc je vois bien qu'en fonction des gens qui te racontent que vraiment 2-3 jours avant, ils étaient énormes et pu que non. Alors moi, pas du tout, parce que en fin de compte, j'ai un repreneur qui est vraiment quelqu'un de très structuré que j'apprécie humainement parlant. Quelqu'un de bien et donc je sais que ça va bien se passer en fait.
Tout
c'est pas
booké,
le sujet.
Il y a plus de points suspens.
Mais déjà il y en avait pas beaucoup.
T'es assez présente dans l'écosystème quand même pour savoir que jusqu'au moment où tu signes, potentiellement ça peut ne pas signer.
Alors franchement, pas du tout...
Tu sais.
Non, parce que justement, je suis suffisamment dans l'écosystème du business pour savoir qu'en général, tu sais si ça va bien se passer ou mal se passer. T'as suffisamment... Tu sais que si t'as des signaux rouges et signaux verts, etc. Parfois, tu veux pas les voir. C'est pour ça que ça se passe mal. Moi, je suis plutôt de genre à regarder les choses en face. Donc, il n'y avait pas aucune raison, vraiment, que ça se passe pas bien.
Tu disais un grand moment ce jour-là.
Oui, parce qu'en fin de compte, ce jour-là, je l'ai vraiment... c'était pas un jour pour moi qui était qui était particulièrement bourré d'émotions et pas ce jour-là en tout cas, mais à ce jour-là j'ai rencontré un des une des personnes qui rachetait Booster Academy, qui était dans un fonds, etc. Et étant donné que ça durait des heures, parce que on était juste période Covid, pré-Covid, est-ce qu'on met les gens dans la salle, machin, les papiers, les signatures, les banquiers qui arrivent pas toujours avec ce qu'il faut. Bon, alors je sais pas, ça durait en tout cas des heures en back-office, je sais pas ce qu'ils faisaient, ils imprimaient, je sais pas. Mais en tout cas, moi, qu'est-ce que j'ai fait comme d'habitude? Je me suis intéressée à la personne qui était en face de moi. Et en fait, ça m'a déclenché un vrai, je suis sortie de là et je savais, donc j'avais déjà monté mon autre entreprise depuis 3 ans.
Dont on va parler après, voilà. Ouais.
Et à ce moment-là, il m'a donné un élément déclencheur qui fait qu'aujourd'hui, ma boîte The Artist Academy est en pleine croissance. Et donc à ce moment-là, j'ai créé une discussion avec cette personne-là qui n'avait aucun rapport avec la vente, mais qui m'a, en sortant de là, j'étais avec donc mon associé de toujours pour toujours, Sophie de Parseval. Et à ce moment-là, j'ai dit à Sophie, c'est bon, là, on a la lumière au bout du tunnel, quoi. Donc c'est drôle parce que voilà, il n'y avait pas.
Mais c'est ta capacité aussi à t'intéresser aux gens qui sont autour de toi.
Ah, mais voilà, c'est voilà, exactement. C'était super.
Tu nous raconteras après le fameux élément déclencheur ou
Oui, éventuellement, moi, je peux vous raconter. Mais bon, c'est des éléments de business, de compréhension, de modèle, d'entreprise sur lesquels on discute. Voilà, c'est...
Écoute, on y revient éventuellement quand on arrive sur The Artist Academy. Donc, autour de la table de signing.
Bah, autour de la table.
Des avocats,
banquiers. Fonds, représentation aussi d'autres personnes qui investissaient, je pense, à titre personnel dans la boîte.
Et du champagne.
Et du champagne, exactement. Et puis une photo symbolique a fait le tour d'Internet et de LinkedIn dont on me parle. J'ai voulu faire la photo immédiatement. D'ailleurs, dans la même robe que je porte aujourd'hui. Il y a peut-être un signe, hein.
C'est drôle, un signe.
Maintenant, je vais
Une signe. Robe. Oh, je suis nulle en couleur.
Corail.
Corail, merci.
Tu allais dire rouge.
J'allais dire rouge.
Et donc, une photo où je lui ai donné les clés. Je lui donne les clés. On prend en photo en train de donner une paire de clés qui n'est pas évidemment la paire de clés en question. Et donc, je fais.
C'est les clés de chez moi, voilà.
Et je poste cette photo sur LinkedIn qui va faire alors des dizaines de milliers de vues, de commentaires, etc. Ce qui fait que tout le monde a su très, très vite.
Que t'avais vendu.
Voilà, exactement.
Les retours sur LinkedIn, justement.
Ah ben oui, non, des retours plutôt sympathiques entre les clients, les partenaires. Bon après, voilà, il faudra qu'on parle aussi des collaborateurs,
tout
des franchisés.
On va,
là, c'est,
on va y revenir.
C'est
ouais.
plus, voilà, c'est différent, mais oui, des plutôt sympathiques.
On en parlait un peu en off. On disait que tu étais la seconde femme à venir à ce micro et c'est pas faute d'en connaître un certain nombre quand même concédé. En représentativité, elles sont moins sensibles au fait de venir parler de cette session. Tu l'as fait, donc déjà on t'en remercie. On trouve ça important déjà qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs, plus de femmes qui lèvent et du coup à la fin quand même in fine plus de femmes qui cèdent. T'avais un avis là-dessus?
Oui, alors déjà, pourquoi je suis là? C'est parce que justement, et ça fait des années que je pratique ça, tout ça, Thomas, on se connaît depuis des années, c'est que ce côté rôle modèle de femme qui n'hésite pas à monter des boîtes qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. J'avais toujours envie de porter ce rôle-là, de montrer, voilà, c'est possible, soyez ambitieuses les nanas, pensez pas que quand vous avez fait 50 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez réussi votre année, enfin, dépassez-vous, etc. Bon, moi, j'ai toujours voulu représenter ça, ça m'amuse, puis c'est très proche de mon business, Booster Academy, développer vos compétences commerciales. Donc, c'était assez cohérent. Et pourquoi, en fait, je pense que les femmes ne viennent pas, mais c'est très simple.
Parce que là, elles ont quand même tout prouvé. Enfin, à un moment, t'es arrivée...
Il y en a qui ont levé beaucoup plus que moi, qui ont vendu beaucoup plus que moi, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'une femme ne viendrait pas à ce micro? Je pense que c'est la relation qu'elles ont avec leurs collaborateurs. Et qu'à un moment donné, la question qu'on se pose, et que moi, je me suis posée, et que je continue à vivre, c'est le côté youpla boum, j'ai vendu en laissant quand même derrière soi des dizaines de collaborateurs en ce qui me concerne, de franchisés, etc. aussi, il y a un moment donné, voilà, restons discrets là-dessus. C'est une forme de réussite, mais il y a un peu de casse émotionnelle humaine derrière, parce qu'il y a des gens qui nous ont fait confiance, qui nous ont suivis à un moment donné, quelque part qu'on lâche. Bon, ils le savaient plus ou moins que ça allait arriver un jour, mais malgré tout, on s'attend jamais à ce que ça arrive ce moment-là. Et je pense que les femmes sont assez sensibles à ça. Et c'est pour ça qu'il y en a qui viennent pas parler. Enfin, en tout cas, je pense que c'est une des raisons importantes.
Mais une différence entre céder et planter une boîte. Enfin.
Je suis d'accord.
Tu parles d'une forme d'abandon, en fait, des collaborateurs, ce sens-là.
Ouais. Okay. Et c'est pas facile de venir en parler en disant ouais, j'ai fait une super réussite, j'ai vendu, c'est génial, je peux partir maintenant, allez, c'est bon, je peux partir à Hawaï, mettre les deux pieds dans le ventre. Non, je pense que à la fois oui, il y a de la réussite, puis à la fois il y a toujours tous ses collaborateurs, c'est bon, voilà, donc je pense qu'on...
Donc t'as bien voulu venir parler à ce micro, mais sans ton collier à fleurs.
Et voilà, exactement, je l'ai laissé, parce que les fleurs ont fané depuis.
mais d'autres choses ont fleuri, on va y revenir, je te propose de faire un gros flashback sur les débuts de l'aventure et toute cette phase de négo. Pour ça, tu as choisi Life on Mars.
Yes, et ça commence tout doucement. Ça commence tout doucement. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. Belle chanson, hein.
J'adore la chanson. Et j'espère que je vais adorer la réponse à la question pourquoi.
Alors pourquoi ? Alors pas tant pour la signification de la chanson elle-même, mais parce que cette chanson-là, vous la trouvez à la fin de la série Mad Men. C'est la dernière chanson qui clôture et il prend sa voiture et il s'en va. Et c'est vraiment la route, quoi. Il y a la route devant lui, il s'en va. Alors c'est derrière une longue aventure, mais...
Et il y a derrière tout le chemin.
Il y a tout le chemin à venir. Et c'est à ce moment-là que j'ai redécouvert cette chanson-là, que j'ai vite chazamé, remis, etc. dans mon top chanson, dans les top chansons. Et c'est voilà, c'est à la fois c'est lent, c'est doux, c'est rythmé et c'est la vie, quoi. C'est la vie de la vente de chef d'entreprise.
Donc c'est le moment où on revient sur le business. Oui. C'était quoi, quel modèle, et en fait, du coup, découvrir quelques éléments qui expliquent qu'à un moment, ce business trouve acquéreur.
Alors c'est une bonne question parce que je suis sur un business en fin de compte. On va dire assez classique, hein, un business col blanc, consulting, formation, etc. Et c'est vrai que depuis le départ, j'essaie de construire un business atypique. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce business atypique ? Il y a déjà, on va dire, trois colonnes vertébrales. Une colonne vertébrale qui est vraiment du conseil, de la formation, mais quand même que j'ai poussé en « je vais monter votre école de vente », donc qui est quand même très, très marketée. Et qui fonctionnait très bien, parce qu'on a monté quand même des dizaines d'écoles de vente de très grands comptes, de comptes plus petits.
En interne.
Ensuite, il y a un business où je dis, je commence à dire, là, je gagne le prix BFM Academy 2009, j'ai mon premier centre d'entraînement intensif à la vente. Donc, vous, les petites entreprises, vous ne pouvez pas internaliser vos écoles de vente. Donc, moi, je vais être votre école de vente externalisée. Et donc, là, je monte mon premier centre d'entraînement intensif à la vente. Je gagne le prix BFM. Mon centre est ouvert, il sent tout le neuf. Il existe tout juste, mais le prix BFM a fait que ça a fait exploser le business. Et donc là, je vends différemment. Là, déjà, j'ai un processus de vente qui est très, très différent dans mon métier puisque j'arrive avec des solutions toutes faites. Je vais mesurer le niveau de vente de vos collaborateurs et chacun va acheter le niveau dont il a besoin. Et donc, je vais faire vraiment... J'industrialise la personnalisation. Et puis, il y a la troisième colonne vertébrale qui va arriver qui est... je vais maintenant monter des centres d'entraînement partout en France et donc, je vais franchiser le modèle. J'en aurai, moi, monté 3-4 de mon côté et je vais franchiser le modèle. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une volonté de structurer un business qui doit après grandir, etc. Mais dès le départ, il y a cette volonté-là vraiment d'être très, très structurant. J'aurais été d'ailleurs moins structurante. Je pense que j'aurais mieux encore gagné ma vie parce que mieux gagner ma vie, je veux dire, au quotidien.
Sur le moment.
Parce qu'évidemment, tout ça demande beaucoup d'investissement, de marketing, de réflexion, etc. Et très souvent, on m'a dit, mais Vin, qu'est-ce que tu t'embêtes à faire ces centres-là? Regarde, des écoles de vente, ça rapporte, etc. Et c'est vrai que pendant des années, j'avais un trou d'un côté qui était comblé par l'autre, etc. Mais en fait, je savais que c'était le chemin qu'il fallait que je fasse. C'était important.
Si on reflashback encore sur la genèse et sur l'idée, sur le pourquoi tu as monté ça, avec qui.
Alors déjà, on peut revenir très loin, mais si on revient au départ, moi au départ, je suis directrice commerciale dans le groupe Vivendi, alors plus jeune directrice commerciale, hein, 21 ans directrice commerciale, je manage une quinzaine de personnes. Donc.
Félicitations.
Voilà, donc très brillante commerciale, première commerciale sur 180 vendeurs, donc enfin ce que je vends a priori chez le fer. et à un moment donné, Vivendi, années 2000, etc., ceux qui ont mon âge ont vécu ça, vous deux moins, vous étiez jeunes. Donc ça explose, Jean-Marie Messier, l'époque Jean-Marie Messier, et là, ma boîte est vendue au groupe Accor. Moi, j'ai pas du tout envie de rentrer dans le groupe Accor. Et donc, à ce moment-là, je vais chercher un job et je vais me rendre compte très, très vite en 15 jours. Hein. En 15 jours, je me rends compte qu'en fait, j'ai un CV qui est complètement atypique parce que je gagne très, très bien ma vie, mais à des niveaux qu'on n'imagine pas, avec un bac plus 2 en étant une femme. Alors, en plus de surcroît, plus ou moins enceinte à ce moment-là. Bon, enfin plus ou moins, peut-être plus que moins d'ailleurs. Et donc, quand vous allez voir les boîtes à ce moment-là, là, et j'avais 30 ans. Donc j'ai toujours été très très en avance sur les salaires, etc. Par rapport, mais là à 30 ans, en fait, qui vous rejoint, bah, les mecs qui sont sortis d'HEC, machin, qui arrivent avec leur diplôme. Et bon, au bout de 15 jours, je fais 3 entretiens, je me rends compte que j'aurai jamais les jobs. Très très vite. Donc je me dis ok, je vais prendre ce chemin-là. Et donc là je vais m'associer avec, enfin pas m'associer, mais me poser à côté de quelqu'un que j'ai toujours fait travailler et que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Éric Perret. Et donc avec lui on va développer la société Antium, le Curé Attitude, etc. 2-3 ans jusqu'au moment où moi je vais vouloir monter. Il veut pas s'associer avec moi, ce en quoi il a tout à fait raison parce que je pense qu'on se serait entretués et on s'adore. Donc faut continuer à s'adorer. Et donc j'ai monté très rapidement ensuite ma boîte qui plus tard, c'est transformé en Booster Academy au bout de 3-4 ans. Ça, c'est la genèse. Mais si on prend la genèse structure du business model Booster Academy tel qu'il est aujourd'hui, un jour, je suis dans la voiture, je rentre, donc c'est un week-end, je rentre de la campagne, tout le monde dort dans la voiture, il neige, vous voyez, donc quand les émotions sont fortes...
Elle est forte pour la radio, hein, tu vois, elle te met tous les petits détails, on se plonge dedans.
Non, mais c'est parce que c'est des moments émotionnels, des petits détails comme ça qui font que c'est des moments forts.
Avec toi dans la voiture.
Et donc, à ce moment-là, mon téléphone sonne 2 fois, même un dimanche vers 16h et 2
titre
boîtes...
de film, ça, presque.
Presque. Et donc là, j'ai 2 personnes, 2 clients qui me disent, Evelyne, j'ai un problème de recrutement, de formation, et les 2 me racontent la même histoire. Donc, je raccroche et tout le monde continue à dormir. Et là, je me dis, non, mais il y a un modèle à inventer, c'est pas possible. Toutes ces boîtes, ces TPE, PME, il faut les aider. Et c'est là où arrive Booster Academy, qui, vous le remarquerez un tout petit peu, ressemble quand même au modèle de Wall Street Institute, quand même, que moi, je coachais depuis quelques années. Et d'ailleurs, je fais un coucou à Nathanaël, voilà, que tout le monde connaît, j'imagine.
White, right.
Voilà, exactement. Et donc, j'adorais ce modèle, je le trouvais hyper smart. Et en fin de compte, je suis allée... Enfin, tout ça s'est mis en place dans la voiture à ce moment-là. Et je savais où... Alors ça, c'est pas tout à fait mis en place comme ça, mais au bout de 3-4 mois, ça ressemblait à quelque chose qui était de l'ordre de dire comment je peux devenir la boîte qui va permettre aux TPE-PME d'avoir des bons commerciaux.
Donc on est dans la voiture, moi je fais un coup d'accélérateur pour rentrer dans le dur de la négo. Et justement, à ce propos, on a une question de Virginie Nicolas, banquier corporate chez Neuflys EBC. On l'écoute.
Bonjour. Oui, Evelyne, tu as été la papesse de la vente pendant de nombreuses années. En quoi ça a aidé dans les négociations pour la cession de ton entreprise?
Alors d'abord, je suis toujours. Hein,
oui,
d'accord, parce que ça ne se perd pas.
tu sens la papesse, hein, elle ne lâche rien.
Voilà, je lâche pas, hein. Je reste, et d'ailleurs, je continue à faire des conférences, etc. Donc c'est quand même un sujet qu'on ne perd pas. Mais oui, alors c'est très important, en effet, c'est un joli clin d'œil. Mais alors j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs qui voulaient nous racheter. Et en fait, la vente, c'est d'abord de l'écoute et c'est du questionnement et de l'intérêt, de la curiosité. Et donc, dans ces entretiens-là, je pense qu'ils duraient en une heure et demie, je pense que pendant 1 heure, c'est moi qui posais les questions au potentiel racheteur.
Ce qui n'est pas toujours le cas.
Ce qui n'est absolument pas le cas, parce que les gens n'osent en général sûrement pas le faire. Et en fin de compte, moi, je ne voulais pas vendre, comme je vous ai dit, à n'importe qui. Donc, je posais pendant 1 heure les questions et pendant 1 demi-heure, je répondais ensuite à ces questions. Mais le temps imparti, en fait, m'était toujours très très largement supérieur.
Inverser un peu le rapport de force.
Alors, c'est pas une histoire du tout même de rapport de force. C'est de comprendre qui j'avais devant moi, quel était son intérêt, ce qu'il avait compris de mon entreprise, ce qu'il souhaitait éventuellement en faire, mais ce que lui avait déjà fait dans sa vie, en fin de compte, parce que ça, c'est presque la fin de mon questionnement.
On va détailler la négo, mais...
Mais en tout cas, c'est de comprendre tout ça chez ces gens-là. Et ça, voilà, ça, c'est de la technique de vente, en fait, hein, vraiment. C'est de se dire... s'intéresser à la personne qui est en face de soi.
Donc ça, c'est la technique. Et derrière la technique, il y a des objectifs. Donc c'est quoi? C'est de pas rogner le prix? C'est de savoir sur quel curseur on va appuyer?
Alors, c'est de savoir la première chose, la réalité, c'est de savoir si la personne est compatible avec l'entreprise ou pas. C'était mon premier sujet. Et d'ailleurs, ça n'a pas toujours été le cas. Mais c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est ensuite, en effet, quels vont être les arguments que je vais pouvoir mettre en face si la personne est compatible par rapport à ce que lui, par rapport à son expérience, sa vie d'entrepreneur et ses objectifs. Ouais, tout à fait.
Eh ben, on va dérouler sur ce rapprochement. Merci Virginie.
Merci à tous les deux.
Alors tu l'as dit Evelyne, on va rentrer vraiment dans cette négo finale de Booster Academy, mais tu as dit qu'il y avait eu des touches avant, donc pour parler de tout ce laps de temps où Booster Academy est mis en vente, où tu vas rencontrer des repreneurs potentiels, tu as choisi une musique et c'est Jérusalem de Master HKG.
Rythmé, hein.
À l'image de toute cette phase, ouais.
Faut du rythme. La bonne humeur.
Et tout le monde le vit pas comme ça, hein.
Non.
Ça représente bien l'état d'esprit.
Ouais.
Enfin, le mien, en tout cas.
Tiens.
À ce moment-là, tu avais déjà lancé en parallèle The Artist Academy.
Oui, 3 ans avant, 2 ans avant.
Donc là, tu étais directrice de 2 sociétés en parallèle.
Ouais.
Ok.
Ouais.
Et à un moment, le grand écart est trop tendu et il est temps de vendre.
Oui, il est temps de vendre pour plein de raisons, pas que parce que il y a un grand écart aussi, parce qu'à un moment donné... Quand on est salarié, on change tous les 5-7 ans, on change de boîte, on change de... Alors, on peut aller chez le concurrent, on change de crèmerie, mais quand on est chef d'entreprise aussi, on a envie de bouger de secteur, etc. Alors, on peut pas... C'est plus compliqué, on est attaché à sa boîte, on est attaché... Mais il y a quand même un moment donné... Là, j'atteignais un âge certain âge. Et donc, on a envie aussi de faire un peu... De changer de sujet.
Nouveaux challenges, ouais.
Ouais, c'est vraiment ça. Parce que moi, j'adore ce que... Je continue d'ailleurs, hein, j'accompagne des boîtes de croissance... que dans du consulting. Hein. Évidemment, je n'ai pas le droit de faire de formation, c'est évident. Mais vraiment, mais j'adore ce que je fais. Fondamentalement, c'est une expertise qu'on ne perd pas et je jamais je la perdrais.
T'as toujours été passionnée de façon là-dessus.
Ça me passionne pour moi, pour les autres, ça me passionne. Et donc, je n'ai pas abandonné ça. Mais à un moment donné, porter la boîte, porter le processus, etc., on a envie de changer de sujet, en fait.
Donc, il y a un moment clé où tu disais, bon, là, ça y est, on met en vente.
Je peux pas expliquer. Enfin, pour moi, il y a pas un moment clé. Ouais.
C'était pas sur une trottinette avec la flocons de
neige
autour.
La neige, machin,
avec ton associé, vous étiez en phase là-dessus.
Ouais, très très en phase. Ouais. Alors c'est bien parce qu'on est toujours en phase en général. Donc, il y a un moment, on n'a pas été en phase. Un moment, on n'a pas été en phase chez Booster. Mais on est sur ces sujets-là toujours en phase. Donc ouais. À ce moment-là, oui, on avait envie aussi de changer de sujet. Sophie est quelqu'un qui s'intéresse. On est pareil, on s'intéresse à tout. C'est un peu un problème, hein, c'est un défaut. On est hyper curieux, on s'intéresse à tout. Donc c'est important pour nous de changer de sujet de temps en temps.
On décide, du coup, de mettre la boîte en vente.
Ouais.
Ça se passe comment?
Je crois que le premier sujet, c'est choisir un super banquier d'affaires. Enfin, quelqu'un avec qui on a envie de travailler. Et c'est vrai que là, je dois reconnaître que Paul Bougnou, Shamir de chez Larguière ont été absolument, mais fantastique. Vraiment une relation vraiment exceptionnelle. Et déjà, on choisit cette personne-là qui va mettre tout ça en ordre, mettre un deck, etc. Mais je, en ce qui me concerne, je pense que le premier sujet, c'est à partir du moment où vous choisissez un banquier d'affaires, vous ne pouvez plus vraiment revenir en arrière. Alors, certains vous diraient que de temps en temps, il y en a quand même qui reviennent en arrière, mais c'est quand même passer un cap là, à ce moment-là. Et vous savez que la machine est en marche.
Est-ce qu'il y avait une valo déjà à ce stade?
Ouais. Oui, on en a pas mal discuté, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais.
On peut donner des montants?
Non.
Des fourchettes?
Non,
en grosse fourchette.
C'était le deal. Disons, dans des boîtes comme les nôtres, il faut un certain niveau de chiffre d'affaires qui font entre, si on met ou pas le chiffre des franchises, entre 5 et 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, bon, voilà, il n'y a pas de secret. Hein.
Et c'est un multiple.
J'ai pas fait un multiple de 10. Voilà, c'est ce qu'il voulait savoir.
Mais un multiple entre 3 et 7.
Ça dépend du multiple de quoi. Mais...
on n'y arrivera pas à cette
chose. Non, mais on sait à peu près. Non, mais il n'y a pas de surprise. Hein. il n'y a pas de grosse surprise.
Donc là, j'imagine que la banque d'affaires commence à solliciter ses réseaux et à te proposer une liste.
Donc pas mal de monde, une liste, pas mal de monde. Et c'est pour ça que j'aime bien Jérusalem, parce que, alors pour moi, ça m'amuse quand je viens au rendez-vous. Donc je vais chez eux dans le 16e. C'est pour moi, c'est un challenge, c'est un jeu. J'arrive, c'est un jeu de séduction. J'adore ça. Et découvrir des nouvelles personnes et découvrir des concurrents que je connaissais pas toujours, sur lesquels je vais apprendre des choses. Donc moi, j'adore ça.
Sait-on jamais que je vende pas, au moins j'aurai des.
Non, mais même si je vends, je veux dire, t'apprends des trucs pour le
bien
futur.
Bien sûr. Parce que c'est quel type d'acteurs sont susceptibles d'être dans cette liste?
Des concurrents directs,
okay.
Déjà d'une certaine taille, et des gens qui sont dans la formation de façon plus généraliste,
okay.
Mais plutôt des gros acteurs.
Et est-ce que vous aviez établi des critères de non, lui, on l'enlève de la liste?
Ah, totalement. D'accord. Il y en a, oui. Et puis, il y en a, même si je voulais quand même le voir. Il y a des gens, il veut me voir,
je vais le voir.
Ça fait quand même 10 ans que mais je vais le voir. En plus, c'est un métier où je vous cache pas que j'ai pas rencontré une femme, hein. C'est-à-dire que moi, je suis quand même dans un secteur sur la formation, généralement en formation, mais en plus en efficacité commerciale, je suis la seule femme. Donc, c'est marrant. Donc, je me suis fait tacler pendant quand même quelques années par certains. Qui là, tout à coup, commençait à s'intéresser. Bon, donc j'en ai profité, donc ça m'a amusé. Alors ça me prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup de bandes passantes, etc. Tout ça, moi, en fait, en attendant, mon business booster, faut que je le maintienne au top, parce que j'avais quand même fait un truc de dingue, c'est que pendant le confinement, j'avais fait +15, +20% de chiffre d'affaires. Hein. Donc c'est une seule boîte de formation.
T'avais tout transformé en distanciel.
Mais en un week-end, c'est-à-dire en un week-end, tous mes centres d'entraînement. À la fois mes franchisés, etc. Le lundi matin, c'est-à-dire qu'on a été en confinement, je crois, un jeudi. Eh bien, le lundi matin, tout le monde continuait son business. Mais tout le week-end, ils avaient bossé comme des dingues. Tout le monde avait bossé pour mettre tout
pour être prêt,
distanciel. Alors, nous, on était déjà, on était en e-learning, etc. Donc, on avait quand même des clés, on avait déjà fait
des choses. Oui, j'imagine que vous n'avez pas tout...
Mais quand même, c'est un gros travail. Donc on a fait un truc de dingue. Ouais. Et mon mari, qui m'avait jamais vu bosser et qui dit toujours, ma femme a beaucoup de gueule, mais en fait, elle fait bosser les autres, elle fait rien. Là, il a reconnu, parce qu'il m'a vu en confinement. Là, il a dit, je savais pas que tu bossais autant. Donc on a fait un business à +15 pendant ce moment-là. J'ai fait The Artist Academy, évidemment, a cartonné pendant le confinement aussi. Donc moi, il fallait que je maintienne mes business. Donc si je peux pas, une vente ne peut pas me prendre de bande passante. Émotionnel à la fois, mais aussi en termes de temps. Donc
tu délègues au maximum. Alors, et tu viens au rendez-vous.
Et je viens au rendez-vous
avec déjà de l'info.
Avec de l'info, et ça, vraiment le temps que je vais prendre, c'est le temps du rendez-vous. Quand je suis sortie du rendez-vous, je suis déjà passée à autre chose en fait. Hein. Donc ça, c'est important, parce que j'ai fait la même chose pendant mes levées de fonds. J'entends tellement de chefs d'entreprise qui me disent, ah ouais, mais alors à ce moment-là, pendant 4 mois, j'étais off parce que j'étais en levée de fonds, etc. Enfin, moi, j'étais 2 fois en levée de fonds pour The Artist. Je peux même pas dire ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Ça me prendra jamais de bande passante.
Oui, t'as la capacité de cloisonner.
Ouais. Et de dire que quand même first business, quoi.
Mais alors, du coup, qu'est-ce qui fait, selon toi, je fais une digression, mais que ça prend autant de temps à beaucoup de gens, quand même?
Peut-être deux raisons. Un, c'est ma façon de voir les choses, mon mental. La deuxième chose, c'est que justement, j'ai ma Sophie de Parseval à côté qui a structuré tout pour que tout se passe très facilement. Et donc, c'est là où on est binôme. Beaucoup de gens me connaissent. Peu de gens connaissent Sophie, justement, qu'on voit beaucoup moins, mais qui fait que derrière, tout est hyper solide. Quand on ouvre un drive aux investisseurs, aux gens qui veulent voir, tout est classé depuis des années par ordre, machin, tout est prêt. Donc déjà, tout ça ne prend pas de temps. Et puis après, c'est le mental. Et puis, c'est la confiance qu'on va faire aux gens. C'est-à-dire que moi, je redis pas 15 fois les trucs. Tout ce temps que je vais passer à vérifier tout le temps, je vais le passer à faire autre chose. Voilà. Et en général, on prend peu de risques quand on est bien entouré.
Tu vas voir combien de personnes comme ça?
Je vais voir entre peut-être une bonne quinzaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur une quinzaine de personnes, il y en a, à mon avis, 12 où en sortant, j'ai dit il n'y aura pas de second rendez-vous.
Pour quelle raison?
Parce que, en fait, dans nos métiers, on a beaucoup de gens que je trouve, alors je vais être très méchante, mais des margoulins de la formation, qui jonglent sur des systèmes de formation, qui font pas le job, parce que nous, pareil, encore une fois, vous me connaissez, sur, on sait ce qu'est Booster Academy, on sait à quel point on porte l'efficacité commerciale, à quel point on a vraiment, c'est un sujet qui nous tient à cœur, etc. Et on a des gens, enfin, ils feraient n'importe quoi pour gagner du fric, mais sans porter vraiment un sujet.
Mmh. Et, avec une recherche de résultats.
Ouais, et très court-termiste, etc. Et donc, il y en a plein, mais vraiment, mais la plupart. D'ailleurs, c'est là où je remercie encore Paul et Shamir, parce que de temps en temps, ils ont dû me dire, mais elle est folle, quoi. Mais je peux même pas, second rendez-vous, mais me donner même pas le prix qu'ils veulent mettre dans la boîte. Je n'en veux pas. Je veux pas de ces gens-là. C'est-à-dire, je ne confierai pas cette boîte avec cette marque et ce qu'on a fait.
Donc, c'était pas une question de montant.
Mais pas du tout. Pas du tout, parce qu'on n'est même pas arrivé jusqu'au montant. Après, vous avez des gens qui vous disent, oui, mais alors, en fin de compte, vos centres, là, en fait, ça sert à rien. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de reprendre tout votre business intra-entreprise, mais le centre, ça n'a aucune valeur ajoutée. Enfin, en plus, il y a des gens qui vous font
dur à entendre aussi, ou on est déjà dans une phase
alors,
de négo,
dès le rendez-vous des couverts? Non, on n'est pas du tout dans une phase de négo. C'est même pas dur à entendre. Vous dites qu'ils n'ont rien compris. C'est même pas dur à entendre. C'est juste que vous êtes en train de juger la personne en face de vous en disant, je pense qu'il n'a pas compris grand chose et qu'il n'a pas essayé de comprendre. Et ça, c'est absolument atroce de voir qu'il y a des gens qui n'essaient pas de comprendre. Ça, c'est pour moi, c'est pas acceptable déjà, parce que en plus, on est sur un business qui est tellement différent des business. En fait, on a monté un business. On est presque. Enfin, j'essaie de réfléchir, mais les seuls en France. J'ai vu beaucoup de business comme ça monter aux États-Unis, en Australie, parfois même en Asie, de business qui sont, une fois qu'ils sont hyper ancrés, en fait, on peut les démultiplier partout dans le monde. D'ailleurs, je suis partie en signant au Maroc, et puis on signera après, ils signera dans d'autres pays dans le monde, mais on a cette faculté-là d'avoir ancré et mis un business qui peut être vraiment démultipliable. Ce qui n'est pas le cas dans nos métiers de formation, en général. Tu vois, ça tient un consultant, un machin, tu mets... Et donc, le type qui n'a pas compris ça, pour moi, c'est pas possible, quoi. Et il y en a pas mal qui n'avaient pas compris ça. Et qui n'ont pas essayé de comprendre,
Tu parlais des équipes tout à l'heure. Évidemment, ce genre de choix de repreneur aurait eu un impact que tu ne souhaitais même pas avoir, au-delà du business, sur les collabs.
Ouais. En plus, vis-à-vis des collaborateurs, même pas, enfin, c'était pas possible, quoi. Non, j'aurais pas mis... On avait une équipe exceptionnelle, des gens super. On n'a pas toujours eu des équipes exceptionnelles. On a eu des moments compliqués, comme dans toute boîte. Là, j'avais vraiment une équipe qui était au top, hyper soudés parce que Covid, etc., avait fait que, voilà, on était très, très, très soudés. Et alors, ce qui était, nous, en fait, au moment du confinement, on était dans un château forme en Espagne. C'est-à-dire que 2 heures avant la fermeture des frontières, on a passé la frontière d'Espagne, la frontière se fermait derrière nous. Donc on a
préparé... Donc là où tout le monde voulait partir, toi, tu revenais.
Voilà. Ok. Et donc, ça veut dire qu'on a eu 2 jours ensemble pour dire, voilà ce qui va se passer, ça va être dur, mais voilà, on se met en ordre de marche tous ensemble. Donc, ça a été une vraie chance pour nous, à ce moment-là. Donc, j'avais vraiment une super, super équipe. Ouais. Et ça, je ne l'aurais pas confié entre les mains de n'importe qui.
Donc, sur 15, il y en a 12 que tu as exclus.
En fait, il y en a trois que j'ai particulièrement appréciés.
Oui.
Que tu connaissais déjà
Non, pas du tout.
Dans les trois, il y a le final.
Oui.
OK.
Ouais. Il y a un très gros cabinet, après, qui n'a pas pu se positionner pour des raisons chez eux, qui ont été eux-mêmes, je crois, rachetés, qui était vraiment très, très, très sérieux avec des gens très bien devant moi. J'ai beaucoup apprécié. Une personne...
On peut nommer ou pas?
Non, pas du tout.
OK.
Non. Et puis, je serais incapable de donner le nom, en plus.
OK.
Une deuxième personne, un jeune qui était très, très bien aussi, avec qui on a commencé à avancer, mais il a été bloqué par ses investisseurs, mais que j'ai trouvé un garçon très, très bien, très curieux, très intéressant, lui-même ayant développé un super business.
Et les invests, ils disent non, tu sais pourquoi?
Ça, c'est problème humain. Non, okay. C'est pas par rapport au projet.
Okay.
D'ailleurs, lui était hyper déçu parce qu'il pensait que les gens allaient le suivre. Enfin, il lui avait promis ça, pas promis, moi, un type très, très bien. Là vraiment, oui, je pense que ça aurait été très bien. Et puis il y a eu Marc, voilà. Et Marc, pareil, ça fait vraiment partie des gens où tout de suite j'ai vu que j'avais vraiment quelqu'un d'hyper sain, hyper sérieux, hyper smart devant moi, venant du milieu de la formation, qui avait découvert le dossier en fait quand il était en poste, mais voilà, et qui est parti depuis et qui a dit mais ça dans ce cas-là, c'est parti avec le dossier, ça sera pour moi.
Donc il le rachète pas avec un groupe.
Avec un fonds.
Il le rachète avec un fonds.
Ouais, exactement. Donc, il est vraiment à la tête de leur entreprise. C'est lui qui manage la boîte. Tout à
fait. On rappelle son nom.
Marc Adler.
Et le fonds?
Alors,
tu te rappelles pas ?
Non, c'est pas.
Et oui, Marc Adler, du coup, il était déjà à la tête d'une société.
Il avait été à la tête. Hein, il a été à la tête de plusieurs très belles sociétés de formation. Donc quelqu'un qui connaît très bien le milieu. Alors quelqu'un qui va passer de grosse société à une toute petite entreprise. Hein, pour lui, donc il va pas traiter, le quotidien est un peu différent, mais qui avait vraiment la volonté, je pense qu'on avait assez de passer d'un groupe à l'autre et puis d'être, voilà, ça s'était pas toujours bien passé, et il avait envie de monter sa propre boîte, son propre groupe.
Je crois que c'est la première fois qu'on a à ce micro une revente qui se fait en one-to-one, parce qu'effectivement il est adossé à des fonds, mais pas d'un groupe qui décide de racheter.
Ouais.
Ouais,
c'est vrai, et ça m'a énormément plu. Parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de groupes.
Du coup,
de
choisir un homme, quoi.
Ah, ben, complètement. Ouais. Et là, tu sais que t'as quelqu'un d'en face de toi vraiment de bien, quoi. Quelqu'un de bien. Humainement parlant, déjà, c'est quand même le premier critère. Et en plus, quelqu'un qui connaît bien le business et qui apprécie ta marque. Mmh. Et qui connaît le sens de la marque.
Et puis, a priori, qui n'a pas un intérêt à reprendre la boîte et à virer une partie ou à reprendre sa techno et à, tu vois, enfin.
Oui,
ça
oui.
arrive.
Ça peut arriver, mais j'ai la prétention de penser qu'il aurait viré sa techno pour garder la nôtre, si, tu veux, si ça avait été le cas.
Oui. mais bon, c'est des histoires qu'on.
Oui, qui peuvent exister aussi.
Entendu, ouais.
Ouais, ouais.
Alors, restons avec Marc.
Ouais.
Le pas de tango.
Exactement.
Ça se passe comment? Je crois que tu me disais en off, je crois pas qu'on l'a dit tout à l'heure. C'est plutôt toi qui posais les questions.
Oui, au départ, ouais, tout, ouais, ouais. Et puis après, il a pris la main, ouais. etc. Mais ouais, tout à fait, tout à fait. Donc oui, c'est vraiment des moments où vraiment je veux savoir qui j'ai devant moi, en fait. Ouais, tout à fait.
Des fois, dans les tangos, on esquive. Des fois, on rentre un peu dedans aussi.
Ouais.
J'imagine que vous n'avez pas évité ces moments-là.
Écoute,
et c'est pas dans cela.
Franchement. Après, on verra pour le reste des boîtes. Mais franchement, ça s'est très très bien passé. Vraiment, enfin, j'ai pas à souvenir, mais ça, c'est encore enfin, Roland, tu sais, d'ailleurs, tous les deux, vous avez eu le même. Et en fait, quand on est chef d'entreprise, on se souvient que des bons moments.
Ouais. On a ce biais-là.
Ouais. Ouais, on a un biais quand même très fort là-dessus. J'ai pas souvenir de moments compliqués, franchement.
Il y a quand même une phase de négo, déjà.
Ouais, mais alors, vraiment, je m'appuie sur mon banquier d'affaires. Okay. Ça, c'est un des trucs que j'ai appris à faire. C'est juste, voilà, je dis, et étant donné qu'ils sont excellents et que j'ai confiance, alors ça, c'est très important, vu que je suis quand même, voilà, je connais bien la vente et la négo, hein, c'est quand même mon sujet. Donc, j'ai intérêt à avoir hyper confiance les gens et j'ai énormément confiance en Paul et Shamir. Et je sais comment ils font et les techniques qu'ils ont. D'ailleurs, la même chose avec mes avocats, hein, je contrôle les techniques, etc. Des techniques d'approche et pas que la compétence hein, en elle-même, parce qu'ils sont tous les gens que tu approches sont toujours très compétents. Maintenant, quelles techniques ils ont et comment ils approchent. Et là, j'ai totalement confiance, ce qui fait qu'une fois que j'ai dit ce que j'avais à dire, je laisse les clés. Et c'est vrai qu'ils ont super bien fait le job. J'avais raison d'avoir confiance.
Donc, aucune négo.
Pas vraiment.
Tu vois,
très
une clause. Le sujet aussi du départ, enfin, à un moment,
alors, on était d'accord. Alors ça, c'est un miracle, j'avoue, mais on était d'accord pratiquement sur tout. Moi, il y avait des clauses que je ne voulais pas.
Exemple.
Le earn-out. Je voulais pas de clause. C'est-à-dire que je partais du principe que soit je suis chez moi, et alors ça, c'est avec mon caractère, et donc je décide et je suis responsable. Quand je ne suis plus chez moi, je ne peux pas avoir de conditions. Alors que je suis plus à la tête de la boîte.
Mais ce qui sous-entend qu'il n'y a pas d'accompagnement
physique.
Alors,
de toute manière, voilà. Alors, ça, c'est. Alors, il pourrait y avoir un accompagnement sans burn-out. Il pourrait y avoir. Okay. Ça, je peux le décider. Mais après, je me sens tellement pas. Enfin, c'est aussi mon caractère qui est de monter des boîtes, d'être à la tête des boîtes et de savoir où je vais. Mais je me sens tellement plus responsable de la stratégie. Ça va plus tellement dépendre de moi. Comment je peux être dépendante de ça?
Oui,
ça,
on a un pied dedans, un pied dehors. D'ailleurs, on en parle souvent dans l'émission. Hein. C'est une zone grise.
C'est super compliqué, quoi. Donc ça, c'était ma base. Et d'ailleurs, pour info, il y a très peu de gens qui... les gens le savaient dès le départ. Il y en a peu qui ont remis ça en cause. En revanche, l'accompagnement...
Juste un chiffre, et je vais te laisser poursuivre, mais je crois qu'il y a sur... tous les earn-out, il y en a 80% qui ne sont pas payés en totalité. En totalité, ça veut pas dire rien, mais 80%
ouais.
des...
C'est la stat en dit long.
Ouais.
Ouais. Ouais, ouais. Donc ça, pour moi, c'est pas possible. Ensuite, il y a le sujet de l'accompagnement. Donc moi, j'étais prête évidemment à accompagner. Maintenant, moins j'accompagnais, mieux c'était. Et il s'avère que pour Marc, il avait pas besoin, il sentait pas avoir besoin d'accompagnement. Et donc, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas officiellement un accompagnement. Nous, on se parle beaucoup, on déjeune une fois par mois, tous les deux mois. On s'appelle une fois tous les 15 jours, on a des choses à se dire, etc. Mais il n'y a pas officiellement d'accompagnement. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites de façon intelligente, présentation de clients, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'accompagnement. Il a pris en main très rapidement les sujets, etc. Donc ça aussi, ça c'est assez exceptionnel. J'avoue que quelque part, ça m'arrangeait aussi en termes de temps passé, puisque j'avais The Artist Academy à côté, avec largement de quoi faire. Et donc on a pris cette option-là. Ouais.
Mais tu parlais des collaborateurs tout à l'heure.
Par contre, c'était
très
difficile.
Donc, tu pars le vendredi, tu ne reviens plus. Quoi.
Alors, en fait, tu as la loi, fameuse loi Hamon, qui est d'ailleurs très mal foutue, hein, qui fait que la loi Hamon fait que, en fait, si ça ne se passe pas très bien, c'est à cause de ça, parce qu'il y a tellement peu de gens qui peuvent qu'on te fout une loi. Enfin bon, donc.
Précise. Enfin,
oui, si tu peux repréciser.
Donc la loi Hamon fait que un certain nombre de jours avant le closing, tu dois demander à l'ensemble des collaborateurs s'ils veulent acheter ou pas la boîte.
C'est 3 semaines avant, je crois.
Oh, même pas. Mais bon, et donc tu gardes une certaine confidentialité jusqu'à ce moment-là, chose que j'aurais pas fait de la même façon s'il y avait pas eu cette loi-là, ce qui fait qu'en fait j'ai des collaborateurs qui m'ont vu disparaître en 15 jours, 3 semaines. Donc non, c'est très très dur, c'est très dur pour moi. Le plus dur, c'est quand tu l'annonces à tes collaborateurs. Donc d'abord tu annonces à tes collaborateurs proches, ensuite j'ai annoncé à mes franchisés. Pour tout franchisé qui vient pour ta marque et pour toi aussi. Hein. Donc ça c'est, si on peut appeler des moments émotionnellement compliqués, c'est cela. Hein. Okay. Tout le reste, c'est du gâteau. Hein.
Est-ce qu'il y a des retours du type « je comprends pas » ?
Ah bah oui, non mais attends, c'est super dur pour eux.
Tu as des anecdotes à nous raconter
Alors là, vu que c'est pas très bien, c'est pas très agréable, j'ai occulté rapidement, mais en fait, je suis curieuse de savoir, je sais pas comment les gens l'ont vécu, mais je sais pas vous d'ailleurs, comment vous avez vécu ça, mais c'est hyper dur, quoi.
C'est un des moments les plus difficiles.
Bah oui, parce qu'on a vraiment l'impression de trahir. Là, il y a vraiment vous trahissez les gens, puis vous les trahissez. Et là, pour le coup, si vous avez accompagné, mais alors moi, c'est double trahison. C'est-à-dire qu'en plus, ils vont plus me voir, quoi. Et donc, ça va être dur. Mais on a fait une très belle transition avec Marc. Il les a tous rencontrés individuellement. On a énormément travaillé sur chaque profil. Il a pris le temps de rencontrer les gens, de s'intéresser aux gens. Donc, on a fait un gros travail pour essayer de faire que ce soit le moins difficile possible.
Tu as laissé une personne très clé aussi.
Y a Annie Paul qui est restée, qui est vraiment avec qui on a monté Booster Academy depuis le départ. Hein. Il y a Sophie. Il y a Annie Paul qui est restée. Donc, ça, c'est important. Mais c'est pas facile, ouais. Ah ouais, non, c'est pas facile. Et puis ça tient à la fois en externe, la boîte, elle tenait pas du tout à moi en définitive, parce que la boîte, elle avait fait son bout de chemin et moi.
T'avais installé une marque.
Ouais, j'avais vraiment installé la marque.
Était plus forte que toi.
La marque est devenue en 5 ans plus forte, 5-6 ans plus forte.
Il y avait quand même la marque Evelyne Platnik-Cohen. Enfin,
mais pour toi, parce que tu me connais, mais pour beaucoup de gens, non.
Ok.
Non, ça avait vraiment. Et même sur les centres, sur le business centre, puis j'avais mes 20 franchisés. Je crois qu'il y en a une vingtaine, ou peut-être moins. Non, je mélange entre mon nombre d'artistes, mon nombre de franchisés. Bon. Mais sur les artistes. Mais il y avait en tout cas, il y a tous mes franchisés. Et ça, c'était vraiment une vraie volonté qui avait installé la marque en région, donc qui était beaucoup plus connue que moi en région. Donc en fin de compte, la marque, elle me dépassait. Mais par contre, tes collaborateurs, non, ils te connaissent toi, ils connaissent pas la marque. Quoi.
L'entourage proche, personnel, réagit comment à ça?
Alors moi, je ne parle de rien. À l'entourage proche et personnel, je dis que les bonnes nouvelles, que ce qui est bien.
Donc ils l'ont appris.
C'est une bonne nouvelle, ça, non ?
Oui, mais je veux dire, je dis plutôt à la fin. Enfin bon, voilà, je m'étale pas. Je m'étale pas parce que j'aime pas m'étaler en fait. Donc pas grand chose, pas grand chose, pas grand chose.
J'imagine quand même que ton mari, tes enfants étaient au courant.
Ouais, mais tu sais, pour mes enfants, tout ça, c'est des concepts, hein, parce qu'ils m'ont vu à la télé, ils m'ont vu, ils ont vu plein de choses. Depuis The Artist, ils ont vu Patrick Bruel à la maison, ils ont vu Michel Lard, qui sont allés sur le concert de machin, en VIP. Tu sais, mes enfants, c'est.
Tu
leur
veux
mère,
être ma
c'est...
maman? Désolée, maman, pardon, j'aurais pas dû.
C'est un grand concept.
On prend
hein.
Le montage, c'est pas grave.
Donc, tu sais, ils sont plus, je pourrais leur annoncer n'importe quoi, ils croiraient. Hein. Je dis, demain, j'ai acheté une tour à Manhattan. Ah, t'as acheté une tour à Manhattan, super, maman. Ah, ouais. Donc, mes enfants, c'est compliqué. Mon mari, il prend les trucs au fur et à mesure où ça vient. Lui aussi, il n'est pas trop étonné. Mais je m'étale pas. Non, non, c'est vrai que c'est aussi, en tant que femme, ce serait intéressant d'avoir d'autres femmes, d'ailleurs, sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de femmes, d'ailleurs, qui ont monté en couple.
Ouais.
En fait, quand tu regardes, hein, souvent, des très belles boîtes qui ont été vendues, souvent, il y a des couples, en fait, plus que des femmes seules, majoritairement. Après, il y a des boîtes tenues que par des femmes. Je serais très curieuse de savoir, parce que moi, là-dessus, d'abord, j'ai gardé mon mari 27, bientôt 28 ans de mariage, le 9 octobre. Donc, j'ai gardé mon mari 28 ans. Faut le faire pour quand t'es une chef d'entreprise, etc. Mais je pense, en préservant beaucoup de choses, je me garde mes problèmes pour moi, quoi. Ça, oui, ça est sympathique aussi.
Alors, je sais pas comment.
Est-ce que tu la connais, celle-là?
Ah non, tu vois, celle-là.
Moi non plus.
Ça, faut l'écouter avec des bonnes, avec un bon félicitat. Faut l'écouter avec des enceintes de Vialet. Sublime.
A Felicitade. Vinicius de Moraes, c'est
ouais.
Ça?
Il faut écouter ce qu'il fait.
Et alors, pourquoi ce choix de musique? Parce que finalement, il n'y a pas eu de jour d'après dans l'entreprise?
Non, mais parce que tu me demandais le jour d'après de ma vie, hein,
ouais.
Parce qu'il y a une vie quand même en dehors de l'entreprise.
Évidemment.
Et il y a ce côté un peu, il y a cette légèreté, quoi. Il y a cette légèreté. Il y a plein de trucs au niveau perso aussi que j'ai pu faire évoluer parce que, comme tout chef d'entreprise, le cash est souvent dans sa boîte.
Ouais.
Et donc voilà, il y a ce moment un peu léger après, tout en ayant quand même une boîte à manager.
Tu parlerais de soulagement, hein?
De légèreté.
Légèreté.
De légèreté. Il y a un moment comme ça, très très léger, très sympa.
Sur la plage à Hawaï?
Ouais, non, mais en tout cas, de plein de trucs très sympas. Et puis
mais t'as pas eu ce grand vide, effectivement, que peuvent avoir certains. Tu avais quand même prévu d'avoir une boîte.
Alors, franchement, mais heureusement. En fait, je pensais pas à quel point ça peut être très embêtant quand t'as pas une autre boîte derrière.
Mais est-ce que tu l'avais pas anticipé en créant The Artist
Academy? Quelque part, je pense, d'un point de vue inconsciemment, oui.
Inconsciemment.
Et inconsciemment, oui. Mais heureusement, quoi. Mais je crois que sinon...
Le téléphone sonne moins?
Non, on peut pas dire ça.
C'est lié
non,
à quoi?
C'est le cerveau qu'on fait énormément travailler. Quand t'es à la tête d'une boîte, tu te rends compte, t'es sollicité tout le temps. Et ce cerveau-là qui ne servirait plus à rien, qui tout à coup se retrouve dans un espèce de vide intersidéral, qui est d'ailleurs une forme de workaholisme, etc., sûrement, hein, qui est pas très sain. Hein. Mais tout à coup, t'arrêtes de penser. Et d'ailleurs, quand j'ai repris mes premières missions de coaching, j'ai remis mon... il s'est passé 5-6 mois avant que je remette ça en route. Et j'ai remis mon cerveau à travailler sur ces sujets-là. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en avais besoin. Comme si j'avais arrêté une drogue.
Sachant que tu avais une boîte à gérer aussi, quand même.
Et sachant... Oui, mais justement. Et je dis heureusement parce que j'ai ressenti ce que ça aurait pu être si j'avais pas une boîte à gérer. Et là...
Non, beaucoup d'invités nous en parlent. Ils nous parlent de l'ego aussi, où il y a des salariés qui viennent te voir, te disent merci, sont gentils avec toi, etc. Toi, il y a eu ce côté-là aussi, où tes salariés te manquaient, cette relation?
Ah ben moi, j'ai des salariés, oui, parce que franchement, chacun de mes collaborateurs était une pépite. Hein. Donc oui, c'était compliqué de laisser ces pépites, surtout quand on sait... la difficulté qu'on a à recruter, à monter des équipes en or. Donc oui, chacun de mes collaborateurs me manquait, ouais, ça c'est sûr. Et je pouvais pas faire youpla boum, aller voir, etc. Tout ça, je pouvais pas faire tout ça parce que je devais laisser Marc, parce que Marc d'abord, je lui avais interdit de venir dans la boîte
bateau,
avant.
Donc...
voilà. Et donc je respectais le fait que. Donc ouais. Et d'ailleurs, je pense qu'ils m'en veulent encore beaucoup. Ouais. Donc moi, voilà, à ce moment-là, moi j'ai quand même ça. J'ai ce moment, cette musique représente bien ce moment-là. C'est où malgré tout,
c'est pas
artistes,
que de la légèreté quand même du coup.
Non, pas que.
Il y a un peu de nostalgie.
Non, je crois que ça, on connaît pas ça, nous les entrepreneurs, la nostalgie. Non, je crois qu'on connaît pas ça.
Ok.
En tout cas, tu
je crois pas. Hein,
en tout cas,
Renaud,
tu ne connais pas ça.
Renaud,
je ne sais pas.
Renaud, mais pareil, je sais pas. Je ne sais pas si vous. Non, vous projetez dans le futur. Hein.
Il y a toujours une projection, mais il y a des sentiments mélangés hein, tout
ah
le
ouais.
temps.
Ah ouais. Bon, moi, je suis peut-être un peu.
Non, bah après, c'est une question de caractère. Il y a pas. S'il y avait qu'une histoire d'entrepreneur et de session, on aurait fait un épisode et puis on aurait arrêté là. Hein.
Ouais,
c'est là que ça devient intéressant. Néanmoins, tu continues de voir. Bon, on dit bébé, d'autres sont pas d'accord pour dire bébé parce que ça n'a rien à voir non plus, mais ta première boîte qui continue de vivre sans toi.
Ouais.
Donc, tu vois, ton cerveau là qui était un peu à l'arrêt ou moins stimulé, on va plutôt le dire comme ça, il doit voir ce qui se passe, il se refuse à voir les nouveautés, il y a forcément des choses qui changent. Enfin, j'imagine bien que Marc a aussi une vision pour Booster et inévitablement, c'est pas toujours les orientations que on peut avoir pris en tant que cédant, qu'on aurait pris en tant que entrepreneur de départ, des fois pour le mieux.
Ouais, ouais, tout à fait.
Du coup, on
se souvient de Bruno Van Rieb d'ailleurs qui avait dit ça et qui m'a suivi avant son décès sur The Artist Academy, qui disait que son repreneur a fait beaucoup mieux que lui. Hein.
Ouais.
Et moi, c'est ça que je veux moi. En fait, j'ai choisi Marc parce que je sais qu'il va faire mieux que moi. C'était ça mon objectif, donc il faut que j'accepte le fait que quelqu'un fasse mieux que moi. Mais moi, je l'ai déjà accepté au départ, puisque c'était ma base de départ.
Donc, il n'y a aucun moment tu dis « Oh, j'aurais pas fait comme ça ».
Alors, non. Franchement, non. Non, parce qu'il y a son choix, il y a sa personnalité. Donc, non. Non, non, pas du tout. Et au contraire, il faut qu'il prenne
en main. T'as pris une décision avec tout ce...
Ouais, complètement.
Eh ben écoute, là, je pense que on peut parler de la suite, enfin de la suite qui commence à durer, hein. Mais c'est la vie d'après, la boîte d'après, The Artist Academy.
Patrick Bruel, Michel. Et alors,
ouais, franchement, le rêve, quoi.
Moi, je pense que Patrick va te faire la gueule.
Parce que j'ai pas choisi Patrick.
Pour le choix de la chanson.
C'est possible qu'il aimerait pas ça.
Et peut-être que les oreilles de certains de nos auditeurs vont faire la gueule aussi.
Oui, tout à fait. Je suis d'accord.
Mais en tout cas, c'est peut-être pour le titre de la musique. En tout cas, 1, 2, 3, To Be Free, Partir un jour.
En fait, elle est sympa, cette chanson.
En fait, c'est les musiques que t'oses pas chanter, mais que tu connais quand même, quoi.
Ah, on la connaît
même
bien.
Même toi, tu la connais, tu vois. Pourtant, c'est ma génération. Bon, c'est partir un jour, c'est autre chose, quoi. C'est...
Non, mais assume, hein. On va écouter les paroles.
J'assume total.
Gros carton commercial. Hein.
Très bien, en aquagym, ça. On y est hein, quand même. Hein. Ton image, se retourner, ne pas regretter,
penser à demain recommencer. C'est pour ça que je laisse les paroles.
Ça, hein. Respect sur la chanson quand même. Hein.
Il savait pas, je pense à l'époque.
Non. Ne pas regretter et penser à demain et recommencer.
Bon, on va quand même... Donc, ne pas regretter, ça, on l'a bien entendu. Recommencer, mais peut-être pas recommencer pareil non plus.
Alors, pas pareil, non, malgré tout. Pas pareil parce que le business model n'est pas le même. Toujours penser en tant que... Évidemment, qu'on a pris tout ce qui était un peu bâton merdeux, on l'a vidé pour aller sur des modèles plus faciles. Mais... Encore une fois, on connaissait pas les merdes qui allaient arriver. Donc ça, c'est l'avantage d'entrepreneur, hein, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Hein, si tu connaissais toutes les merdes qui allaient arriver,
voilà. Donc voilà, mais on pense que on en a enlevé certaines. Mais enfin, il y a des nouvelles qui apparaissent. On sait pas pourquoi, on comprend pas. Mais oui.
Elles sont joueuses, les merdes.
Mais en fait, et puis, non, c'est pas drôle tout le temps. Mais en tout cas, c'est on s'éclate, quoi. Enfin, imaginez juste que là, je rencontre à peu près tous les artistes qui comptent de ce monde, mais c'est pas de faire un selfie, moi, que je fais avec eux. C'est que je passe des heures à rentrer dans leur cerveau pour savoir pourquoi ils sont aussi talentueux pour construire des masterclass avec eux.
Et ça, tu le partages, du coup, à travers des masterclass.
À travers, voilà.
La reine du pitch ne peut pas parler de The Artist Academy sans nous faire le micro-pitch en 5 secondes, 10 secondes, un tweet.
Non, mais déjà, le truc, c'est que déjà, nous, on prend énormément de plaisir et on va faire quelque chose d'exceptionnel que personne n'a jamais fait encore aujourd'hui en France. C'est de rentrer dans la tête de tous ces artistes et de comprendre, en fait, pourquoi ils sont si talentueux. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire avec eux des formations pour qu'ils partagent tout leur savoir-faire à des passionnés. Alors, soit des passionnés de sujets que je vais citer, soit des passionnés de l'artiste. Et donc, on va vous apprendre...
Mais comment devenir rédacteur de Polar, écrivain...
Voilà, mais avec Douglas Kennedy, Bernard Minier, the best of the best. Comment écrire un roman ou une pièce de théâtre, d'ailleurs, parce que j'en ai deux avec Éric-Emmanuel Schmitt. Comment faire de l'acting avec François Berléand, Bruel, Michel Larocque. Comment performer en photo avec quand même Studio Harcourt, hein, avec Yann Arthus Bertrand, avec Reza, donc trois... Enfin, voilà, et on va travailler avec Gauthier Capuçon, on va travailler avec vraiment des artistes, avec Chantal Thomas, on va travailler avec des artistes emblématiques, et on va leur faire construire ces masterclass en ligne. Voilà. Et donc, on va permettre à des prix hyper abordables, et surtout, quel que soit votre lieu d'habitation, puisque c'est en ligne, d'accéder à ça. Et ça, c'est exceptionnel.
Je me suis baladé un peu dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est la communauté qui se retrouve, qui échange sur ces masterclass.
Ouais.
Je prends l'exemple du polar que je suis allé regarder. Je voyais les gens qui s'échangeaient leurs exercices, qu'il y a des exercices très pratico-pratiques. Ouais. Ils se donnent leur avis entre eux. Enfin, c'est stimulant au-delà de l'apprentissage. Ah,
c'est un vrai sujet. C'est que en fait avec Sophie, donc dans cette équipe là en fait j'ai deux associés. Donc j'ai Marjorie qui a été directrice marketing pendant longtemps chez Booster, et puis qui a été la première salariée de The Artist Academy, et ensuite avec Sophie, et en fait on est des pros de la formation, donc on n'a pas voulu faire du à l'américaine, hein, storytelling. On a vraiment voulu faire quelque chose d'extrêmement ancré en termes de formation avec des vraies intentions pédagogiques.
Quand tu dis à l'américaine, parce que forcément quand on voit The Artist Academy, on a en tête des pendants américain.
Masterclass.com,
exactement, par exemple.
Qui a été, hein, si on veut retrouver, c'est pour ça que j'ai créé, c'est en regardant masterclass.com, je me dis, c'est juste exceptionnel. Mais par contre,
je peux
faire la même chose en France. Parce que les Français veulent de la
culture
française.
Chose en France ou la même chose en France sur le principe, mais avec une autre approche.
Alors, en fait, maintenant avec une autre approche. Sur le départ, non. Alors déjà, il y avait une première autre approche de la façon dont on faisait travailler en amont nos artistes.
Oui.
Parce qu'en fait, on sent que dans Masterclass, c'est filmé, direct, et ils se livrent. Et il n'y a pas ce travail d'ingénierie pédagogique. Donc parfois, c'est un peu à l'américaine, c'est un peu léger, quoi. Donc nous, déjà, on avait fait ça un peu différemment, parce qu'il y avait un vrai travail de préparation avec les artistes. Et puis après, ce qu'on a fait de différent, c'est la plateforme, l'interaction dans la plateforme, les intentions pédagogiques. Et là, la plateforme va changer le 1er novembre.
Comment est-ce qu'on source les artistes qui sont difficiles d'accès?
Ça commence au signing de Booster Academy, non?
Non, ça c'est le business model. Okay. Non, ça commence par le fait que qui c'est la meilleure en vente sur cette terre? Non, mais je vous pose la question, on parle de la pépèse de la vente, mais bon, non, mais je plaisante.
T'as décroché ton téléphone?
Ouais, vraiment.
T'as vendu sur WhatsApp?
Ouais, vraiment.
Faut-il avoir le dit téléphone en question.
Le premier que j'ai eu, qui est eu de nos plus belles masterclass, Éric-Emmanuel Schmitt, que j'avais tout lu d'Éric-Emmanuel Schmitt, je l'ai contacté via Facebook. Son bras droit m'a appelé, m'a dit, bon, je vais regarder. S'il est intéressé, il vous rappelle. Le lendemain, il appelle. Là, je te raconte pas. Éric-Emmanuel Schmitt va vous parler. Là, je peux parler d'émotion. C'est énorme. Parce que la concentration, c'est parce qu'à ce moment-là, j'avais pas levé de fond, j'avais rien, j'avais même pas le nom de la boîte.
Ouais.
J'ai deux minutes pour savoir si la boîte j'y vais ou j'y vais pas. En fait, c'est ça. Hein. C'était plus fort que tout. Il y avait rien. Et en fait, il me dit, mais c'est génial ce que vous me proposez, parce que j'en rêvais, mais je savais pas comment le faire. Et il me dit, écoutez, avant, je vous ai googlisé et je vois bien votre force et je sais que vous allez y arriver, donc je vous fais confiance, donc je vous dis oui. Alors là,
une vente facile.
Lèves, tu sautes sur
et
toi-même.
Là, j'hurle. Tout le monde dit, mais il se passe quoi, etc. On a le go d'Éric-Emmanuel Schmitt. Ça, c'était complètement dingue. Et, Et je lui fais quand même signer un contrat Booster Academy à l'époque, parce que je n'avais pas créé la boîte. Signe un contrat. Après, évidemment, heureusement, on a tout changé, tout propre et tout, mais quand même, il signe un contrat Booster Academy. Et donc, on fait la première masterclass. Ah oui, parce que j'avais essayé, je pense, il me semble, hein, lever des fonds. Et puis, le mec me dit, vous êtes gentil, mais non, tant qu'ils voyaient rien, en fait, ils avaient du mal.
Ça s'entend.
Et donc, on fait la masterclass d'Eric, sachant qu'elle sera pas en ligne avant 6 mois, parce qu'il faut quand même une plateforme pour gérer tout ça. Et on commence à lever de fonds à partir du teaser que vous pouvez encore regarder sur le site, qui est juste dingue. Et là, on monte le teaser à des investisseurs. Et là, gling, 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 tout le monde dit oui. En voyant le truc, il dit, si vous avez réussi à faire ça, c'est-à-dire que la chair de poule, quoi. Et donc, c'est comme ça que ça, quand l'aventure a commencé.
Le modèle avec eux, c'est un pack d'entrée, j'imagine, et puis ensuite ouais, au nombre de
voilà,
users.
Ouais, exactement, exactement. Me demande pas.
Mais évidemment,
et là, je te réponds que
je me doutais bien. Une fourchette, on va essayer surtout. Pourtant, tu as toujours dit qu'il fallait pas avoir peur de parler prix.
Oui, alors non. Si tu me demandes combien coûtent les masterclass, je vais te le dire.
Ça,
tout
tu me
suite,
le dis,
hein.
Évidemment.
Pas un problème.
Il y a un nom, tiens, on va te challenger un peu. Un nom là que tu n'as pas encore et que tu vas avoir à tout prix. Et là, tu te diras, c'est mon deuxième.
C'est compliqué parce qu'il n'y en a pas qu'un. Mais une Céline Dion, par exemple.
Ok. Si quelqu'un connaît Céline.
Non, bon, on a différentes approches.
T'as des entrées, ouais.
Mais voilà, par exemple. Mais en fait, il y en a beaucoup plus que ça.
J'imagine.
Il y a plein de gens. Et puis, si tu veux, on a quand même des artistes français qui ont une profondeur, une sensibilité, une intelligence. Enfin, nous, on les côtoie. C'est ça te nourrit, c'est vraiment exceptionnel. On a eu Aurélie Dupont, qui est exceptionnelle. Aurélie Dupont, donc danseuse étoile et directrice de l'Opéra de Paris, là qui vient juste de partir de l'Opéra de Paris. On a pu assister à des répétitions de l'Opéra de Paris. Enfin, voilà, c'est une aventure qui est magique et
qui dépasse même le business parce que t'en prends plein là, ouais.
Mais largement et en plus nos clients vous en parlent avec autant. Enfin, vous voyez ce que j'ai dans la voix, mais nos clients ils sont pareils. Enfin, on a des retours qui sont extraordinaires. Donc ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de. Mais Booster Academy, c'était pareil. Hein. Les gens disaient, j'ai une vie avant et après Booster parce que je me développe, je fais, ah, ça y est, je fais du business, j'ai pas honte de signer, machin. Donc voilà, c'est business d'empowerment.
Oui, ça initie un changement chez l'autre.
Voilà,
chez quoi.
Exactement.
Un contact avec Alexandre Astier. Moi, je signe pour la vie avec toi. nouvelle vie. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, on aurait pu en parler d'ailleurs sur la partie d'avant quand tu parlais de cette légèreté, aussi que le cash de l'entrepreneur, il est d'abord dans l'entreprise, après la vente, évidemment,
ouais, ouais.
Il revient, il repart dans une holding pour réinvestir, il arrive aussi sur des sujets très perso, j'imagine immobilier, investissement,
ouais.
Tu t'es fait une petite répartition dans ta tête ou ça a été à l'investissement en fonction à l'opportunité?
Non, il y a une Enfin, j'ai été aidée parce que j'ai des copains qui sont bien placés sur ce sujet-là, donc j'ai été pas mal aidée par des copains en fait. D'immobilier, j'en avais déjà pas mal, donc c'est pas là où j'ai mis en premier. Mais voilà, c'est parti dans différents fonds, placements, etc. Et puis dans une maison aussi. Voilà, aussi. Donc ça a été grand changement. Donc ça, c'est sympa. C'est pour ça aussi, c'était important à un moment donné, je trouve, de se réaliser pour ça aussi, parce que tu vas pas attendre.
D'avoir 60 ans pour en profiter.
Alors 60, j'approche, hein, mais j'y suis pas du tout, hein, mais je dirais même 70, 75, tu vois. Donc oui, à un moment donné, t'as aussi envie de ça. T'as aussi un petit peu envie de ça.
Est-ce que tu t'es fait un beau cadeau, un petit coup de folie ou non, t'es resté très raisonnable?
Un petit cadeau sympathique, ouais.
Dont tu veux nous parler?
Donc, en fait, j'ai fait... mon mari m'a offert une jolie bague, voilà.
Avec ton argent.
qui est là
non,
et combien de
l'argent? Alors là, je voudrais remettre l'église au milieu du village. Non, et j'en profite pour d'ailleurs lancer un message à tous les hommes qui se débrouillent, pas tous, excusez-moi, mais beaucoup en disant c'est ma boîte, c'est moi qui ai créé. Et au moment des divorces potentiels, zémerder, rien faire, bonne femme. Moi, j'estime que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai un couple solide. J'ai un mari qui m'a supportée pendant toutes ces années. C'est lui qui a amené les enfants à l'école. tous les matins. Et encore aujourd'hui, mes enfants, j'en ai une qui est à la Défense en master, c'est encore lui qui l'accompagne, donc c'est, ça fait longtemps que ça dure, qui joue avec, qui s'en est occupé, qui rentrait plus tôt que moi à la maison, etc. Et c'est un coup, voilà.
Et ça, ça se partage.
Et ça, ça se partage. Donc, il n'y a pas mon argent, ton argent. C'est notre argent à nous. Si un jour, par malheur, on se sépare, bah, ce sera moitié-moitié. Et ça me dérange pas parce que j'estime que c'est une construction commune. Et j'entends trop d'histoires, généralement plutôt côté masculin, parce que bon voilà,
il y a plus d'entrepreneurs,
voilà, parce qu'il y a plus d'hommes, ou et laisser les femmes sur le carreau du jour au lendemain. Et ça, je trouve ça inadmissible. Ça tant que souvent les femmes ont sacrifié. Mon mari n'a rien sacrifié, mais beaucoup de femmes ont sacrifié une partie de leur vie pour élever les enfants, pour être là, etc. Et ça, je supporte. J'ai du mal à supporter ce genre de discours.
Alors déjà,
donc,
merci
de m'avoir laissé la possibilité au travers d'un podcast, d'avoir pu dire ce message.
Et alors, merci de le dire. Et je rebondis quand même, sans citer de nom, mais on a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont vendu leur boîte, qui nous ont raconté plutôt en off, mais que c'est leur femme qui est partie parce que justement, le canapé, enfin le tout cette phase d'après où ils se reconnaissent plus, ils sont à la maison tout le temps, et c'est dans les deux sens.
Oui, alors j'ai peu entendu d'histoires comme ça.
Hein.
J'en ai vraiment peu entendu comme ça. Moi, j'ai beaucoup entendu d'histoires où chacun essayait de, enfin, en tout cas, celui qui avait vendu, qui avait monté ça, et qui avait l'impression que c'était son histoire à lui, alors qu'en fait, l'histoire d'une vie, c'est pas l'histoire d'une entreprise, c'est l'histoire d'un couple, des enfants.
Avec tout ce qui est autour.
C'est la construction. C'est pas, j'ai monté une entreprise. Une entreprise, si j'avais pas marié, si j'avais pas eu d'enfants, je veux dire, ma vie n'aurait pas du tout été la même, quoi.
Eh ben merci. Je vous propose de célébrer cette prise de parole avec la musique avec laquelle tu as célébré la session de Booster Academy. Pour ça, tu as choisi Laurent Voulzy.
C'est justement cette musique que mon mari m'a fait découvrir, qui est une vieille musique que j'adore.
Ça valait bien 50% du cash.
Ouais, franchement.
Un peu blousée dans ce bal, jeune fille. Les amis de mademoiselle sont venus voir mademoiselle. C'est mignon.
Moi, j'aurais imaginé que tu avais fêté ça avec quelque chose de plus rythmé, plus dansant.
Mais il y avait cocktail. J'aimais bien le titre, en fait. J'aime bien le titre. J'aime beaucoup cette chanson que j'écoute régulièrement. C'est vrai que c'est moins dansant que Airport, mais... Je vois, le titre était sympathique.
Et tu peux nous raconter la célébration? Vous avez fait quelque chose de spécial
que
ou...
Tu sais, en fait, non. Non.
Non, tu racontes pas ou non, t'as non, pas célébré?
Non, je trouve. Enfin, de toute manière, dans toute ma vie, je trouve que je ne célèbre pas assez les réussites. Quoi qu'il en soit. Parce qu'en fait, je passe vite au. Mais ça, pareil, il y a
souvent,
beaucoup de gens vont vous dire la même chose.
Et t'as tellement de bouteilles au frais qui restent au frais.
T'as pas le temps et tout. Ouais. Et non, on aurait pu faire plein de choses. Mais pour la prochaine, j'ai une petite idée. Mais là, non, franchement.
Rien de. Donc, un peu de champagne chez l'avocat et.
Ouais,
pas
non,
plus,
franchement.
Quoi.
Alors, en plus, on était en plein confinement. Moi, je voulais vraiment faire un truc très sympa avec mes collaborateurs.
Et ben, je suis allé à 1,2 km pour fêter ça.
Non, mais genre, on n'a même pas pu réunir les collaborateurs comme on voulait le faire.
Ouais.
Même dans la sphère perso, rien.
Non. Non, non. Alors, dans la sphère perso, donc on a changé de maison de campagne. Et là, on a fait une belle fête, ouais, avec tous les copains et tout. Mais c'était en même temps, c'était un gros anniversaire pour mon mari. Je dirais pas son âge, mais voilà. Et donc, on a fait une grosse fête là, mais qui regroupait un petit peu tout ça, ouais. Donc ça a été sympa.
Evelyne,
yes.
Merci.
Bah merci à vous, c'était sympa.
Merci beaucoup.
T'as envie de nous envoyer du monde à ce micro pour nous parler de leur session?
Bah oui, vous avez pas eu Anne-Laure Constanza, par exemple?
Non, on est en échange WhatsApp.
Ah, parce que c'est une fille qui est tellement géniale.
Carrément.
Ouais, vraiment géniale. Et puis qu'il y a plein de nouveaux projets et tout. T'as une Catherine Barba aussi.
Et oui, échange WhatsApp aussi.
Voilà.
Vas-y, continue. Et puis on va leur repasser ton.
Il a un gros WhatsApp.
On va les retaguer pour leur dire. Il faut
tu
que
vas
que
les pinguer. Ouais.
Après, dites-moi, bah, qui dans mes copines, là, vous les connaissez mes copines? Bah, il y a Sandra Legrand, évidemment.
Et tu as raison. En plus, le message WhatsApp n'est pas parti.
Ah, tu as une fille que j'adore aussi, partie de mes copines. C'est Hélène Mérillon qui vient de céder YouBooks.
Mais alors là, je veux bien offrir ses coordonnées.
Je vais te donner. Et génial aussi. Non, mais là, je vous ai cité quatre filles qui sont exceptionnelles.
Bon, on est preneurs. De toute façon, on a du retard au niveau de la parité. Donc.
Et je te donne celle que tu n'aurais pas, mais il n'y a que Hélène, en fait.
Ok, écoute, on poursuit en off. Mais...
Bon, donc, les prochaines, c'est 4 avec que des femmes.
Il y a un planning, mais il y a encore des trous. Donc,
En saison 2, on va rééquilibrer un peu les choses.
Mais oui, elles arrivent. Il y a de la place.
Merci, Evelyne.
Merci à vous deux. Il y a du monde chez mademoiselle. C'est le cocktail. Mademoiselle.